problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien cadré par le coach aussi.
Si j'ai remarqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serai au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot, Nicolas Jamas.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, l'after est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, after la seule émission en France, en direct, 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir, Jonathan McCarty.
Salut les amis.
John Mack est pris dans la place ce soir. Kevin Diaz est là aussi, salut KD.
Salut Nico, salut Jonathan.
C'est très américain ce soir.
KD, ça me va.
Tu penses à qui?
Kevin Durant,
évidemment.
J'ai acheté des chaussures de tennis collab avec KD.
Tu connais pas Kevin Durant
de tennis?
Et tu nous méprises quand on connaît pas Kevin Nurmagomedov?
Ouais.
Bah, chacun son truc, c'est quoi? C'est du tennis?
Non, mais il est sérieux.
Il est sérieux, chaud.
De toute façon, je vais allumer là sur les réseaux. Là, on va se marrer.
C'est du basket.
C'est l'un des plus grands joueurs du basket du moment au monde. Ouais. On parle du basket, l'autre sport universel avec le foot, en fait, tu vois? Oui. KD.
C'est très vite.
Tu connais LeBron James ou pas? Non, il connaît pas, je pense.
Si, quand même.
C'est quoi comme sport?
Du basket.
Il fait exprès.
C'est Kobe Bryant.
Le programme de l'after ce soir jusqu'à minuit, bien sûr. Débrief de la soirée de Ligue 1. Les bonnes opérations de Rennes et de Montpellier vainqueurs ce soir. La mauvaise de Monaco, tenu en échec à domicile par Reims, un but partout. Le succès 4-0 du Paris Saint-Germain face à Dijon. Que faut-il en retenir? Quel enseignement à 10 jours désormais? Un peu plus de la réception du Borussia Dortmund en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Également au programme, le derby demain soir 21h au Parc OL, Lyon, Saint-Etienne et dernières infos compositions. On sera avec Timothée Mémon qui est déjà sur place. Également au programme, 4 drôles de dames, le duel, le classico, le vrai classico entre le Real et le Barça demain soir 21h. Les dernières infos avec Fred Hermel et également la première défaite, un événement messieurs.
Oui,
un événement ce soir. Okay. Liverpool a perdu un match de football. Série de 44 matchs sans défaite qui s'arrête net sur la pelouse du 19e de Premier League, Watford. On en parlera ensemble, bien sûr, avec Julien Laurence. Et des nouvelles de l'Allemagne avec une scène surréaliste en Allemagne dans le duel qui opposait le Bayern Munich à Hoffenheim avec une passe à 10 de 15 minutes des 22 joueurs, des 20 joueurs sur la pelouse. Polo nous expliquera pourquoi on n'est pas vraiment allé au bout de ce match, en tout cas dans les règles. Et puis également l'Italie, Simone Rovera, l'Italie fortement impactée par le coronavirus, 6 matchs reportés dont le choc prévu demain entre la Juve et l'Inter. Le décor est planté, le 32-16. Vous nous appelez supporters stéphanois, lyonnais, montpelliérains, rennais, monégasques, parisiens, dijonnais, bien sûr. Et bien sûr, appelez-nous pour parler aux drôles de dames du Real et du Barça. Aussi, l'application RMC Sport Direct Studio et le hashtag RMC Live. Mais d'abord, comme tous les soirs, l'essentiel dans l'after, c'est les 3 points.
À l'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Avec John Mack.
Écoute, alors mon premier point, c'est la victoire de Montpellier. Montpellier qui, au final, voilà, a connu un début d'année civile assez compliqué. Là, ce soir, même si tout n'était pas parfait dans le jeu, c'est une victoire qui est hyper importante pour eux, pour rester au contact du top 5. Le deuxième point, c'est le match du Paris Saint-Germain. Il y aura beaucoup de choses à dire. La blessure d'Angel Di Maria, même si le PSG a une très grosse victoire 4-0 contre Dijon, c'est pas non plus hyper rassurant et je m'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et le troisième point, on aurait pu encore parler, je sais pas moi, Damien qui par exemple semble être définitivement condamné, mais c'est sûr, j'ai surtout envie de parler de la journée de demain qui est hyper excitante, ouais, avec le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et surtout, parce que je suis désolé moi, c'est ça que j'ai regardé, j'attends le derby avec une très très grande impatience parce que c'est un derby qui sent la poudre.
Et de voir comment Lyon va se comporter 5 jours après sa victoire. Exactement. Brillante face à la Juve. Est-ce que Lyon est capable de prolonger son éveil, Kevin?
Moi en 1, j'ai quand même mis chronologiquement le match du Paris Saint-Germain parce que pour moi, cet après-midi, il y avait quelque chose qui était clair. C'est que Je pense que les joueurs sont d'accord avec moi. En tout cas, la grande partie des attaquants, c'est que Icardi a gagné sa place de titulaire pour Dortmund. En deux, c'est Monaco. Peu importe l'entraîneur, on garde les mêmes problèmes. Donc, on a beau changer les médicaments, le virus est le même. Et en trois, Angers, Metz, qui se donnent beaucoup d'air dans cette Ligue 1, dans ce bas de classement, avec deux très importantes victoires aujourd'hui.
Je rappelle justement, voilà pour vos trois points messieurs, les scores de la soirée en Ligue 1. Angers gagne à Brest 1-0, Metz gagne à Amiens, important, 1-0, Montpellier bat Strasbourg 3-0, Monaco Reims, un but partout, mauvaise opération monégasque, et Rennes gagne désormais, gagne à gagner 2-0 à Toulouse. Commençons par le Stade Rennais, mais d'abord, petite parenthèse rugby, le match de la soirée, 17e journée du top 14, Brive face à Lyon, Julien Théier.
On vient de dépasser l'heure de jeu et l'avance est toujours très confortable pour les brivistes qui mènent 30-11 face au Loup. 3 essais pour les Corréziens, 1 essai pour les Lyonnais.
Merci Julien. Rennes s'impose 2-0 face à Toulouse, la bonne période rennaise qui s'imposait en fin de match le week-end dernier grâce à un doublé d'Mbanyang qui confirme au Stadium ce que tout le monde a plus ou moins fait depuis maintenant 5 mois. 134 jours sans victoire pour le TFC désormais en Ligue 1. Messieurs, Rennes est 3ème de Ligue 1, garde sa 3ème place de Ligue 1 bien sûr, avec 47 points après 27 journées, 4 de plus que Lille qui jouera demain et 7 de plus que Montpellier qui s'est imposé également, 40 points comme Monaco. Rennes a-t-il les épaules, on peut le dire maintenant, suffisamment solides pour garder cette 3ème place, Jonathan?
Écoute, pour l'instant, il y a tout qui nous laisse à penser qu'ils sont toujours en course et qu'ils vont rester en course jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même quelque chose à dire sur le match de ce soir contre évidemment une très très faible équipe toulousaine qui pue la poisse à l'image à un moment, je sais pas si vous l'avez en tête, mais Boigard tire un corner, le corner sort directement derrière la ligne de but. C'est une équipe qui est en total manque de confiance. Que les équipes qui viennent chez eux au Stadium s'imposent, c'est pas une surprise. J'ai pas non plus été hyper convaincu dans le contenu parce que Rennes a proposé ce soir. Parfois, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de maîtrise, notamment au milieu de terrain. Le Zonzi va peut-être falloir lui laisser peut-être un peu de temps. Il a il a connu 6 premiers mois un petit peu compliqués, mais il y a quand même des points positifs. J'ai adoré sur le côté la Bourigeaud avec Mawasa. Mawasa, je trouve que c'est un joueur qui après son prêt à Nîmes est quand même un joueur qui est en pleine progression. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant à suivre dans les années à venir, peut-être pour passer l'étape du dessus. L'étape du dessus, c'est pour moi, c'est un club du top 3, enfin affirmé
Ligue 1.
Du Ligue 1, voire de Ligue 1, voire un club niveau deux, troisième panier Ligue des Champions. Bourigeaud, après une première partie de saison où je l'ai trouvé un petit peu en dedans par rapport au potentiel qu'il peut avoir ce soir, je trouve qu'il a fait un bon match. Donc oui, c'est une équipe qui a des arguments, qui même lorsqu'elle ne fait pas un match hyper convaincant, est capable d'aller prendre les trois points sans vraiment trembler.
Bah, moi, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que vient de dire Jonathan. J'avais noté un très bon Bourigeaud avec une bonne relation avec Mawasa. Alors, Mawasa, j'en parlais un peu avec coach Courbis pendant le RMC Footio qui me disait que c'est quand même un bon attaquant. Maintenant, sur les phases défensives, il faut encore qu'il progresse. Oui. Un peu à l'image, tu vois, d'un... Alors, même si lui, c'est quand même plus un spécialiste, mais d'un Bounassar, d'un Maxwell Cornet du côté de Lyon. C'est des joueurs qui sont très offensifs, mais quand même, tu parlais du top 3 Ligue 1, voire du deuxième panier Ligue des Champions. Il va falloir qu'il travaille sur son placement, sa régularité défensive. Et j'ai bien aimé aussi Del Castillo, Niang. Niang, c'est quand même, j'en ai entendu parler à l'OM.
Bien sûr. Oui, c'est une rumeur assez
Ouais. Franchement, c'est quand même un sacré attaquant. J'ai l'impression qu'il a enfin cette maturité qui lui manquait. Et c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Bon, il y a quand même un petit point négatif, voire deux, c'est que Niang était pas satisfait de sortir, mais surtout Rafinha, qui a acheté ses crampons, qui a une attitude un peu négative. Ça, c'est jamais bon dans
le match. Il n'est pas bien en ce moment, Rafinha. Il n'a pas les bonnes stats qu'il avait.
Il cavale quand même, il fait des efforts. Ça, tu peux pas lui enlever. Mais c'est jamais bon quand t'es dans un vestiaire pour y avoir été souvent, quand t'es dans un vestiaire et que t'as même un joueur comme ça qui pète un
cap. Il est surpris qu'il a suivi championnat
portugais. C'est pas trop son truc, normalement. Franchement, c'est un joueur qui est assez calme. À l'image de Gelson Martins, que j'ai jamais vu péter un plomb et qui prend 8 mois de suspension, peut-être, et c'est largement mérité parce qu'il a complètement craqué. Là, je vois un Rafinha qui arrive, là, qui est remplacé dans un match où qui est quasiment gagné, qui fait aussi la forte tête, c'est dommage. Et donc attention quand même, il va falloir que Stéphane gère son vestiaire. Ouais.
Sébastien, supporter, excuse-moi Jonathan. Oui, Sébastien, supporter Rennais au 32-16 est avec nous. Bienvenue dans l'after, Sébastien, Jonathan Macardy, Kevin Diaz, t'écoute.
Bonsoir messieurs.
Salut Sébastien.
Bon, victoire tranquille, en chantant à Toulouse.
Bon, on peut dire en chantant, mais disons que Toulouse nous a facilité un peu la tâche en marquant dès le début du match. Donc Rennes est rentré tout de suite après dans une gestion et a joué sur contre-attaque. Asfina, bon ben, vous en parliez tout de suite. C'est vrai que il a son attitude, je trouve ça un peu dommage de connaisseur de se comporter comme ça. Mais bon, il devrait voir un peu sur le terrain aussi. Il a une balle de 2-0 qui n'arrive pas à conclure. Et puis voilà quoi. Bon après, sur l'ensemble du match, on a vu une équipe de Rennes dans la gestion. Moi, je trouve que Blues est quand même une équipe relativement faible.
Hein, oui, parce qu'elle est plus que ça. Quoi.
Pas de... Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on a sans doute un peu dans la gestion pour le fait, parce que je pense qu'on a surtout le match de Coupe de France qui arrive. Donc, on n'a pas trop forcé. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus un grand Rennes ce soir non plus.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment savoir ce que Rennes a dans le bide dans les prochains jours, prochaines semaines. Ouais. Il y a la demi-finale de la Coupe de France jeudi à Saint-Etienne. Ça, c'est une chose. Mais en Ligue 1, Rennes va recevoir Montpellier le week-end prochain, va aller à Bordeaux le week-end suivant, va recevoir Lyon le week-end d'après, et il restera au programme des Rennais un déplacement à Saint-Etienne, un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG et la réception de Monaco. Il y aura Strasbourg également au programme et Angers.
Le problème, c'est
ouais, il y a un gros programme pour Rennes. Le plus dur reste à faire, clairement.
Le problème, les gars, c'est que pour l'instant, donc ça passe. C'est comme on l'a dit, hein, il y a une équipe qui a plein de certitudes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de blessés. T'avais pas Jérémy Morel, t'avais pas Dacunha, t'avais pas toujours évidemment Jonas Martin, Clément Grenier vient de reprendre, a repris il y a pas si longtemps que ça et il est pas encore disponible. Va falloir faire attention parce que quand même, je trouve que c'est un groupe qui a beaucoup de qualité avec des joueurs qui sont en pleine progression. Mais là, t'as 5-6 blessés qui, je pense, pourraient, je te dis pas être forcément titulaire, mais faire beaucoup de bien en cours de match. Donc sur cette grosse séquence, on va voir comment ça va se goupiller. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 2-3 joueurs qui reviennent pour étoffer le groupe.
Et oui, surtout hein, parce que comme dit Jonathan, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Et lorsque tu joues comme cette semaine un match là contre Saint-Etienne, ça va être long. Il peut y avoir des prolongations. Ensuite, t'enchaînes. Et c'est là que les blessures arrivent.
Lyon s'est blessé là.
Ouais. Il est sorti blessé à la cuisse. Bon,
tu vois, j'espère que Jérémy Morel va vite revenir. Da Silva aussi. Ouais. Ça leur fera beaucoup de bien.
Parce que la chance d'avoir un profondeur de banc,
il était là aujourd'hui.
Hein. Oui, mais ils ont une profondeur de banc quand tu prends en compte
ouais,
tous les joueurs sont là.
Ouais.
Moi, je persiste à penser que tu vois Jonas Martin et Clément Grenier vont faire beaucoup de bien au milieu de terrain parce que Zonzi, il faut qu'il reprenne un peu le rythme.
Ouais, il
Kamavinga.
Ouais. Pour l'instant, ouais, ça va doucement.
Faut qu'ils reprennent le rythme.
Ouais. T'es gentil.
Kamavinga, c'est un joueur qui a plein de potentiel, etc. Je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en ce moment, je le trouve un petit peu.
Mais non, mais c'est clair. Coup d'ailleurs, physique. Il a été ménagé pendant deux matchs.
Physique.
Ouais, puis... Oui, il le dit. Ouais. Et Julien Stéphane l'a dit, effectivement. Il faut qu'on gère Kamavinga.
Il a 17 ans.
C'est un Martin et
il a fait 13 titularisations en 14 matchs en 2019.
C'est énorme.
Il a 17 ans, le gamin. Avec l'usure physique et psychologique également.
Vous savez, il y a un paramètre qu'on prend pas souvent en compte, mais c'est quand même la période de l'hiver. Les terrains sont gras.
Oui, bien sûr.
Tu rentres à l'échauffement, tu mets plus de temps le matin pour rentrer dans ton entraînement.
Le mec, il dit ça, tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il fait froid, là, il se barre au soleil,
C'est pas faux, mais je te jure, Jonathan, vraiment, quand tu rentres comme ça le matin pour rentrer dans ton entraînement, pour rentrer dans le match le soir, bon, là, ça va. Mais bon, c'est vraiment pas la période la plus facile et Kamavinga, c'est normal qu'il puise un peu.
Martin et Grenier qui sont sur le retour, je pense que ça leur fera beaucoup de bien.
Mais alors, est-ce que Clément Grenier va être intégré au groupe?
On espère qu'il va être pour lui, mais bon.
Moi, je te dis.
Il n'y a pas qu'un problème physique pour Clément Grenier, il y a un problème relationnel aussi.
C'est réglé.
Oui, mais
ils sont réglés.
Et puis Jonas Martin aussi va la faire du bien parce que rappelez-vous, c'était quand même la grosse recrue du mercato cet été. On avait dit ils perdent Benjamin André,
ils ont un vrai groupe, on oublie
que Jonas Martin, c'est vrai qu'on le cite pas parce qu'il joue pas, mais c'est quand même une grosse recrue qui était censée remplacer un de tes joueurs cadres, Benjamin André, et pour l'instant t'as pas pu l'utiliser. Donc bravo à Stéphane qui, pour je le dis, si Stéphane se qualifie pour la finale et remporterait la Coupe de France, est-ce que ce serait pas le plus grand entraîneur de l'histoire du Stade Rennais?
Sébastien, qu'est-ce que t'en penses déjà? Est-ce que c'est déjà le plus grand entraîneur du Stade Rennais? Le génie breton.
C'est le génie breton parce que bon, là, il nous a fait gagner une Coupe de France l'année dernière, certes. Et c'est vrai qu'il a quand même des qualités qui sont indéniables. Mais bon, on va rester bien droit.
S'il gagne la Coupe de France,
Sébastien.
Bien
sur les épaules et puis on va déjà voir le match jeudi prochain contre Saint-Etienne.
Exactement.
Voir comment ça va passer. Et puis si jamais on a l'espoir d'aller là-bas, pour une deuxième coupe, ça serait super. C'est sûr.
Ils sont exigeants maintenant, les supporters rennais. Hein.
Ils ont raison. Attends, c'est le club qui a le plus d'émotions, qui font les plus d'émotions depuis un an et demi en France, certainement, Rennes. Que ce soit en Ligue Europa ou en coupe. Et même en championnat désormais. Bon, voilà. Merci Sébastien.
De rien, à vous.
Merci Sébastien. Bon, j'ai hâte de voir ce Rennes-Montpellier aussi le week-end prochain et les semaines à venir également pour Lyon qui va devoir aller à Rennes. Ça va pas être simple.
Jonathan. On a le temps d'un petit mot? Vas-y. Court. Moi, je trouve quand même que c'est remarquable ce que Stéphane fait, parce qu'il a quand même un groupe qui est pas non plus, voilà, avec les blessés, qui est pas non plus hyper étoffé. Je trouve qu'il tire le plus grand parti, le meilleur du potentiel de ce qu'il a à sa disposition. Et surtout, on parlait du mercato. Les deux recrues phares de leur mercato, c'était Flavien Thé et Jonas Martin. Pour l'instant, les deux, ils ont pas vraiment commencé leur saison. Donc, c'est assez prodigieux ce qu'ils arrivent à faire.
C'est vrai. Abdel nous dit, supporter toulousain, bonsoir à l'after de l'élégance.
Ah,
bonsoir à l'affaire de l'élégance, les gars, j'ai besoin de me confier sur Toulouse. Je suis à bout, appelez-moi s'il vous plaît. Alors, appelle-nous si tu veux, c'est le 32-16. Mais on a déjà quand même Laurent, supporter du TFC, qui nous appelle. Oui, c'est aussi le rôle de l'after, les gars. D'écouter les supporters malheureux.
Salut Laurent.
Salut Laurent, est-ce que tu es malheureux, évidemment?
Salut Laurent.
Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde.
Salut.
Ben oui, effectivement, je suis malheureux. Je ne comprends pas du tout les joueurs, le staff, l'équipe, la présidence et tout ça. Je ne comprends plus rien au club et au TFC. J'ai l'impression que les joueurs sont en train de lâcher carrément le club. Pas l'entraîneur, je parle pas de l'entraîneur et du staff, mais je parle encore au-dessus, carrément le président Sabran, qui gère le club comme une société, certes, mais je ne comprends plus. On prend des buts dès les 10 premières minutes de jeu, on prend des buts. Chaque match, c'est la même chose.
Laurent, c'est la 7e fois de la saison en Ligue 1 que tu prends un but dans les 5 premières minutes. C'est catastrophique.
C'est vrai.
7e fois.
C'est plus que catastrophique. Et on se réveille à chaque fois, allez, en fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps.
Attends, laisse-le finir, vas-y Laurent.
Pardon.
Oui.
Vas-y.
Oui, tout ça pour essayer de montrer que les joueurs ont envie, mais je pense qu'ils font du mieux sur le terrain, mais je pense qu'ils veulent montrer aussi aux hautes instances du club qu'il faut autre chose, qu'il faut du sang neuf, qu'il faut autre chose.
Je crois qu'il faut vendre le club aussi à un autre, quoi, partir sur un nouveau projet, idéalement.
On s'en fiche.
Ça devrait vendre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de repreneur pour l'instant.
Tu sais ce qui me désole, en fait, c'est que quand on regarde, on l'a dit plusieurs fois, mais quand tu regardes la composition du groupe, quand tu regardes les joueurs qui sont à la disposition ce soir, il y a quand même mieux à faire. Je dis pas que c'est des cadors, mais des joueurs comme Izimat Mirin, des joueurs comme Koulouris, qui a fait quand même un bon début de saison, même si je me moque un peu de lui, mais un joueur comme Iseka, t'as quand même un petit peu de matériel pour faire un petit peu mieux. Et je comprends pas forcément les choix dans le 11 de départ. Je comprends pas, par exemple, pourquoi cette charnière-là est toujours alignée, même si Izimat Mirin a beaucoup déçu. Je pense que c'est un joueur qui aurait eu le mérite d'être un petit peu plus
plus utilisé. Bekoetxea, numéro 3,
même tu peux pas en Ligue 1 avoir un gardien numéro 3 comme ça, même au Media Football Club, j'en veux pas, je préfère Jean-Louis Tour. Il y a un moment.
T'as vu le but qui prend le deuxième. Vas-y Laurent.
Parlons du recrutement aussi. On avait problème défensif. On a un gardien, Baptiste René, qui fait ses matchs à chaque fois.
Certes,
il fait quelques boulettes comme tout gardien, mais il fait ses matchs. Bien. Il nous a sorti le cul des ronces, excusez-moi de l'expression, et puis on va recruter le vice-champion du monde croate, alors qu'on a Baptiste qui est dans les buts, qui nous fait le top.
C'est un des bons gardiens de Ligue 1, Baptiste
René. Voilà. Et après, défensivement, quand on voit les boulettes qu'on fait défensivement,
c'est indigne.
Face à l'adversaire et tout ça, dans l'axe central, on est lamentable. Les latéraux, je sais pas ce qu'ils font.
Ouais, je crois malheureusement, c'est réglé. Ils ont lâché la rampe. Ouais. Je pense que tout le monde a lâché la rampe et doit déjà préparer la saison prochaine. Toulouse, c'est 13 points, 14 points du barragiste, c'est terminé. Voilà, les gars.
J'ai quand même envie de souligner, et je l'ai fait précédemment, mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une influence très correcte pour cette équipe qui est vraiment lamentable depuis plusieurs semaines.
Est-ce que c'est gratuit maintenant? Je sais pas.
C'est pas souvent le cas. Je sais pas comment vous étiez exactement dans le stade, mais franchement, il y avait un peu de monde, non?
Ben, en fait, moi, j'étais pas au stade. J'étais sur RMC le match.
C'est mieux, t'as raison.
En tout cas, bravo aux supporters qui étaient présents.
Ouais, bravo quand même d'être encore là.
Bravo à eux et bravo à Rennes pour leur match aussi. Mais je suis désolé, mais quand on voit un TFC Marseille qui a plus de supporters marseillais que Toulouse.
Ah ouais, c'est terrible.
Après, bon, c'est Toulouse, c'est proche de Marseille, ok. Mais bon, je suis navré. Je comprends que les gens n'aient même plus envie d'aller au stade. Je le comprends.
Merci Laurent.
Merci Laurant.
Merci Laurant. N'hésitez pas à rappeler, n'hésitez pas à les Toulousains nous rappeler cette fin de saison. C'est pas parce que Toulouse est condamné qu'on va pas en reparler quand même. Ce sera intéressant de savoir comment ce club va essayer de se reconstruire, notamment dans les prochains mois. Voilà les gars, le rugby, tiens. Brive face au Loup, Julien Théier.
7 minutes 30 à jouer dans cette rencontre et Brive se dirige vers une victoire solide face au Lyonnais, le deuxième du championnat qui venait avec grosses intentions ici. Mais Brive a fait une excellente première mi-temps et capitalise là-dessus. Il mène toujours les Corréziens assez largement. 30 à 11 face au Loup pour les Brivistes à 7 minutes et 20 secondes de la fin du match.
Et dans un instant, on parle du futur adversaire de Rennes, justement. Montpellier, brillant vainqueur 3-0 du Racing Club de Strasbourg de Gilbert Brémois. On parlera également de la mauvaise opération de l'AS Monaco et le programme Lyon-Saint-Étienne soir, Real Barça évidemment. Le bordel en Allemagne, oui, autour du Bayern Munich et du match au Hoffenheim Bayern Munich. Et puis l'Italie, le coronavirus, les matchs reportés. Grand after jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz, bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Gros programme, les drôles dames à partir de 23h pour évoquer le gros week-end européen, le Classico, l'Allemagne, bien sûr, et l'Italie, notamment avec Simone Rovera et la première défaite de Liverpool depuis plus d'un an, après 44 matchs sans défaite. Place à Montpellier, messieurs. Je sais que vous aimez parler de Montpellier samedi soir. Je sais que Jonathan, tu adores Montpellier. Ouais. On va en parler dans un instant. On espère avoir Montpellier au téléphone grâce à notre correspondant permanent, Julien Landry. Monaco fait la mauvaise opération dans le haut du classement. Monaco, qui mène 1-0 grâce à Ben Yedder, a été rejoint ce soir par Reims, meilleure défense de Ligue 1. Un partout, score final, Reims, 38 points. Maintenu, on va le dire. Hein. Ouais. Septième, 2 points derrière l'AS Monaco, sixième, 40 points, même nombre de points que Montpellier. Monaco a perdu 2 points ce soir, Kevin.
Oui, clairement, les Monégasques qui perdent 2 points.
Mais est-ce qu'ils méritaient mieux, franchement?
Sur l'ensemble, sur l'ensemble du match, il y a une équipe qui doit gagner, c'est l'AS Monaco, parce qu'ils ont eu d'ailleurs de belles opportunités encore dans le temps additionnel avec 2 beaux arrêts de Rajkovic, une barre transversale, une ennemie. Même si il y a quand même un certain Boulaïdia qui est rentré et qui a fait du bien à Reims, notamment en contre-attaque avec sa vitesse. Maintenant, voilà, je le disais en préambule et je le répète, on a beau changer de médicament, le virus reste à Monaco et ce virus, c'est qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas vraiment d'âme. Les joueurs, on sait que c'est pas facile d'évoluer dans ce stade qui où il y a en plus il est en travaux donc il y a encore moins d'affluence que d'habitude. Donc on sent bien sûr que même quand vous menez 1-0, les joueurs ont du mal à gérer les événements et s'ils n'arrivent pas à marquer ce deuxième but, eh bien souvent ils se font rattraper, ça a été le cas une nouvelle fois et on n'a pas vraiment l'impression que et c'est pas contre lui parce que c'est sûrement un très bon entraîneur, mais j'ai vraiment l'impression que dans ce club l'entraîneur c'est pas le problème.
Moi je les ai trouvés un petit peu brouillons ce soir à Monaco.
Bien sûr, la tactique elle est brouillonne.
J'ai pas compris pourquoi alors qu'il semblait avoir trouvé quelque chose qui fonctionnait avec le trio Jovetic, ouais. Slimani, Ben Yedder, pourquoi il nous remet Keita Baldé? Keita Baldé, c'est un joueur qui
il n'a pas été mauvais,
qui n'a jamais vraiment répondu aux attentes qui étaient placées en lui. Il avait un niveau qui était intéressant à la
Lazio. Ça allait mieux depuis le début de l'année civile.
Oui,
il a mis 4 buts en janvier.
Mais quand tu as la possibilité d'aligner Jovetic, Slimani, Ben Yedder, que tu vois que les trois commencent à avoir des automatismes, ouais. Tu le fais. Après, Kevin, t'as raison sur un point, c'est que les problèmes défensifs, ça reste les mêmes. Il y a d'autres choses à faire avec cette équipe, j'en suis convaincu, et pas non plus hyper convaincu par la mise en place tactique du soir, avec simplement sur les phases de transition défensive, les seuls Bakayoko et Fofana qui assuraient la sécurité de la défense. Quand tu sais que tu as une défense centrale qui est aussi friable, ouais. Essaye quand même de la rapporter un peu de sécurité.
Et tu avais dit la semaine dernière que tu te posais des questions sur Badiachil. J'ai tenté d'avoir un œil sur lui. Ils n'ont pas eu grand-chose à faire sur la première heure de jeu, mais avec l'entrée de Dia, qui lui a mis la soupe, notamment là, à 5 minutes de la fin, où il fait le piqué juste au-dessus. Il est jeune, mais on peut pas dire que la vivacité ce soit vraiment son fort. Donc déjà que Glick, il va pas très vite. Ah, si t'arrives pas à tenir un mec comme Boulaïdia, même si OK, il vient de faire son entrée, c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais quand même, c'est difficile.
Je comprends pas la hype qu'il y a autour de Badiachil. Il a fait 3-4 bons matchs. Non, mais Thierry Henry.
Oui.
Mais j'ai jamais vu.
T'as été un rare jeune qui a réussi à.
Par exemple, quand on voit Saliba, on voit qu'il y a quelque chose. Quand on voit Bouba Camara, on sent qu'il y a quelque chose. Quand je te parle de jeunes défenseurs centraux. Lui, j'ai jamais vu ce petit truc qui me laisse à penser.
Après, il est gaucher.
Il est aussi fort que ce qu'on dit.
Ah, mais tu sais, il est gaucher, donc il n'y en a pas beaucoup. Il est bien formé parce que Monaco,
c'est un centre. Tu sais, le paradoxe, c'est qu'en France, on regorge de défenseurs centre-gauchers quand
c'est
même.
Vrai, c'est
on n'a pas droitier.
C'est clair.
Cédric est avec nous, supporter de l'ASM. Salut Cédric.
Bonsoir messieurs.
Salut Cédric. Bon ben voilà, je crois que Kevin et Jonathan ont fait un bon résumé de ce qu'a fait Monaco cette saison et le match de ce soir synthétise exactement ce qu'est Monaco cette saison, Cédric.
C'est, C'est exactement ça, en fait. Et ça symbolise aussi le niveau de notre championnat qui est pauvre. Moi, j'étais au stade. Je viens de Normandie. Là, j'ai emmené mes enfants pour la première fois au stade. Et honnêtement, mais j'étais déçu par le niveau de jeu. Et la défense, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. On savait que le problème était là. On pensait que ça pouvait être résolu au mercato. Ça ne l'a pas été. Mais ce qui est le plus affligeant, c'est la motivation et le niveau de jeu. Vous imaginez que c'était le 5e contre le 7e?
Ouais, t'as raison.
Sur le terrain, ça ne se voyait pas.
Non, c'était dégueulasse.
Honnêtement, moi, c'est triste. Tu vas avoir un match, tu vas pouvoir un spectacle et tu vois rien. Tu vois rien
c'était
du tout.
Dégueulasse.
Alors, t'espères parce que t'es supporter, mais c'était, voilà, comme à la fin de match, on a vibré un petit peu, il y a eu la barre et puis c'est arrivé ce petit gardien, là. Parce qu'après, on veut se qualifier pour la Ligue des Champions pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Mais qu'est-ce que c'était pauvre? Et puis, les changements de Moreno aussi. Je sais pas si vous allez en parler un peu de Moreno, mais on avait une défense qui avait réussi à être un petit peu stabilisée. Et là, Aguilar, il se retrouve sur le banc. On sait pas pourquoi. Sans aucune raison, alors que je pense qu'il faisait partie des bons joueurs.
T'as raison, Laurent. Pardon, Cédric. Moi, j'y ai pensé. Pourquoi Aguilar sur le banc? Bon, peut-être qu'il avait une gêne physique, ça, on sait pas, encore une fois. Mais
Aguilar et Jovetic, pourquoi les deux sur le banc?
Exactement.
Après, moi, Aguilar, honnêtement, je pense pas parce que je suis resté un peu dans le stade après. Et il a fait des accélérations pour justement préparer le week-end prochain.
Mais tu sais, après,
j'ai vu comment il a accéléré.
Tu veux dire, après le match, c'est d'accord. Ok,
il a. Bah, il en a fait plein. Hein.
Ouais.
Il a fait
il a fait un rattrapage physique parce que sûrement
de surface à surface de réparation.
Voilà, il a fait des 15-15 comme on dit. Ouais. C'est pas ce qu'on préfère faire. Mais... je pense qu'il aurait préféré les faire sur le couloir. Mais c'est après, clair, tu sais, Cédric, encore une fois, c'est une hypothèse. Hein, mais il y a certains entraîneurs un peu modernes qui aiment le turnover. Alors ça marche bien, comme dit Jonathan, avec Jovetic et Aguilar, mais eux, pour garder tout le monde en éveil dans le groupe, pour pas qu'il y en ait qui s'endorment sur leur position de titulaire ou les remplaçants qui ne croient plus qu'ils vont pouvoir jouer, ils veulent faire. Il y a des entraîneurs qui veulent faire tourner. Mais quand t'as un match par semaine, ça sert à rien.
Et dans le sprint final,
Monaco n'a plus rien à jouer à part la Ligue 1.
On est d'accord, mais j'essaie de trouver des solutions, des explications.
Monaco est invisible depuis le début de la saison, soit sous Jardim ou sous Moreno.
Et c'est dommage parce que très franchement, il y a des matchs qu'on a vus de Monaco depuis le début de l'année civile qui ont été très convaincants.
Pause, c'est fini rugby, on libère Julien Théier. Brive, Lyon, Julien.
Ouais, c'est terminé sur cette belle victoire de Brive. Les Corréziens qui se donnent de l'air là dans leur lutte pour le maintien. Victoire 30-16 des Corréziens face aux Lyonnais. 3 essais pour Brive en première mi-temps. 2 essais pour les Lyonnais en seconde. 30-16, score final pour Brive face au Loup.
Excellente soirée à toi, Julien. Les gars, le chantier monégasque. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose?
Justement sur le chantier monégasque.
J'avais parlé de la défense. Merci, au revoir tout le monde. Ou presque 80%. Merci, Kevin Glick. Merci, Henrix. Henrix, depuis qu'il est arrivé à Monaco.
Il fallait le laisser partir au Bayern.
Rien. Ça va pas. Jimerson, il est déjà sur le départ, évidemment. Badiachil, surcoté, je suis d'accord avec toi. Balotouré, espoir quand même.
Ouais. Bon joueur de Ligue 1, faut qu'il progresse avec Moreno.
Balotouré, par contre, c'est vrai qu'il accélère beaucoup. Il a fait une tonne de centres, mais aucune précision dans ses centres.
Ouais, c'est ça.
Elles ont tous atterri au deuxième poteau.
Il lève pas la tête.
Moi, je voulais juste dire, rebondir sur ce que vient de dire Nico, dans le sens où j'allais reparler d'une chose. Alors, on va faire court, mais sur l'interview de Thierry Henry le week-end dernier. Ouais. C'est quand même dans l'actualité monégasque. Alors, on aime ou on n'aime pas la personnalité de Thierry Henry. Moi, je dois bien avouer que j'aime. J'aime sa façon de s'exprimer. Mm-hmm. Alors certes, on peut le trouver trop direct. On peut dire, ah oui, mais Thierry Henry, j'ai lu un tweet assez drôle qui disait, ouais, Thierry Henry, il aime le football, mais il aime surtout Thierry Henry. Ok. Mais vu le joueur que ça a été, bon, je pense que le football, il le connaît. Est-ce que ce sera un grand entraîneur? Ça reste à prouver. Et ça, il le dit aussi. Maintenant, lorsqu'il parle de la mentalité des jeunes joueurs monégasques, lorsqu'il parle du niveau, tu vois, quand il dit, je suis désolé, mais moi, si je dois apprendre à un joueur de Ligue 1 à se déplacer, à orienter son corps, mais je suis désolé, mais en soi, il a raison. Un joueur de Ligue 1 qui joue à l'AS Monaco, tu dois pas être obligé de reprendre les bases de l'école de foot, tu vois. Et quand t'es un mec comme Moreno.
Bienvenue en Ligue 1, Thierry Henry, c'est ça aussi.
Non, mais on est d'accord. Donc peut-être que ces entraîneurs-là sont pas forcément faits pour. Et on a parlé de Vieira, qui était habitué à un certain niveau d'exigence. Peut-être, en effet, je suis d'accord avec vous, qu'ils sont pas forcément faits pour la Ligue 1.
Quand tu regardes la composition du 11 de l'AS Monaco, et même aller.
Il a pas eu Vitic blessé.
14-15 joueurs qui sont à la disposition de Moreno, t'as que des bons joueurs. De foot.
On est d'accord.
Que des bons joueurs de foot. Le problème, c'est la cohérence tactique et la ligne directrice que l'entraîneur doit imposer. Pour l'instant, c'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience.
Robert Moreno, justement, en conférence de presse, on tente la première réponse. On voit après.
La question de l'adversaire aussi. C'est normal quand tu prends des risques et tu veux l'attaquer avec une équipe qui est bonne. Il y a ce problème. Je pense qu'on a été la deuxième équipe à faire plus d'opportunités cette saison contre Reims. La meilleure défense du championnat. Et on a vu des opportunités pour gagner, mais on a continué 5 matchs sans perdre. c'est bon, on doit gagner la semaine prochaine à Nice, facile, non? C'est ça.
Ah non. Facile, non. Parce que vous n'allez pas dire ce serait facile. Le conseil,
c'est ça. Tout le monde a compris.
C'est ça. Il y a le sourire,
ça sera facile, ça sera très difficile, mais.
Voilà.
J'espère qu'on va gagner.
Ça donne beaucoup de regrets. Robert Moreno après le match nul de Monaco face à Reims ce soir à Louis II. Monaco qui perd deux points dans la course à la Ligue des Champions ce soir.
Regardez.
Vous avez des regrets avec ces deux occasions de fin de match. Vous pensez pouvoir gagner?
Oui. Je pense que tous les matchs on a voulu gagner. Mais c'est normal. Monaco doit gagner toujours. On doit faire tout ce qu'on peut pour gagner. Avec les risques que tu as, avec une situation de nul, parce que en une contre-attaque, contre une équipe avec des joueurs très rapides, tu peux prendre le deuxième but. Mais comme on voit gagner tous les matchs, on a été tous les matchs cherchant le premier but et après le deuxième but. C'était une situation un peu étrange, le but, parce que la frappe a été très bonne à les poteaux. Mais c'est ça. Nul, c'est un match sans perdre et on doit continuer à travailler.
Voilà, continuer à travailler, hein, c'est la phrase préférée des entraîneurs et des joueurs de Ligue 1. Robert Moreno était en conférence de presse donc après le nul de Monaco. Les gars, je regardais le classement là. Tu veux réagir, Kevin, à ce qu'il vient de dire?
Non, moi je l'aime bien. J'aime bien Moreno.
Il est sympathique.
Voilà, j'aime bien. J'espère qu'on va lui laisser le temps parce que c'est pas parce que je pensais que Jardim aurait pu aussi faire le boulot au moins jusqu'à la fin de saison. Mais moi j'aime bien ce choix d'entraîneur qui a une bonne formation, qui doit connaître le foot, comme je les appelle, ces scientifiques du foot. Il faut lui laisser le temps. On n'a pas laissé le temps à Thierry Henry. Là, on n'a pas laissé beaucoup de temps pour le retour de Jardim. Laissons le temps à Moreno au moins de débuter la saison prochaine et de lui laisser au moins la totalité de la saison prochaine.
Ça dépend du contexte.
Non, mais il faut un peu de stabilité.
Si tu arrives dans un club comme Monaco, qui est quand même censé jouer le top 5, qui est quand même censé avoir des ambitions européennes, moi je suis désolé, tu prends un entraîneur qui est confirmé et qui est habitué.
Mais là, ils ont fait ce choix-là. Maintenant, il faut l'assumer.
Ça, oui, voilà, maintenant, il faut aller au
Monaco, 6e, 40 points. 7 points de Rennes, 3e. Déjà, 7 points. Il reste 33 points à prendre. Cédric, est-ce que tu vois Monaco aller chercher Rennes ou pas? Ça va être dur. Hein.
Ça va être dur en fait, mais ce qui nous donne un petit peu d'espoir, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui est constante. Ça donne un petit peu d'espoir. Mais ça va être compliqué parce qu'on a beau avoir une attaque qui des fois cartonne, on a toujours, moi je me répète, on a toujours la même défense, celle qui a encaissé 60 buts l'année dernière. Ouais. Moi. On pourra me dire ce qu'on veut. Hein. Et puis les choix tactiques, de Moreno, moi. Bakayoko, il jouait pas réellement dans l'axe. Bakayoko, c'est un pur 6 à la base. Et il était excentré sur le côté.
Non, c'est pas un pur 6. C'est un joueur axial, mais c'est plus, tu vois, par exemple, quand t'es champion de France, le pur 6, c'est Fabinho.
Oui, c'est vrai, mais on l'a plus.
Bakayoko, lui, je le vois pas être capable de jouer justement devant la défense. Il est pas assez discipliné.
C'est un relayeur, quoi.
C'est un relayeur.
Donc après, je peux dire j'y crois un petit peu, mais parce que c'est à cause du niveau de notre championnat, il n'y a aucune équipe qui est constante.
Ouais, c'est vrai, t'as raison là-dessus.
Et c'est pour nous redonner un plan de jeu pour la saison prochaine. Mais même si Moreno il reste, si on se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ça va être quoi les ambitions de Petros? Parce que il y a tout ça aussi autour, on ne connaît pas sa ligne de conduite à lui. Il est là le problème.
Mais si l'ambition de Petros, c'est de vendre des joueurs pour faire gagner de l'argent au club.
Ouais, mais après qu'il soit clair aussi, on le savait, mais.
C'est assez clair.
Quand moi je suis un puriste, et ben c'est vrai que je suis hyper déçu. Hyper déçu.
En tout cas, bravo et bon retour en Normandie.
Merci beaucoup, messieurs. Ouais. Je voulais juste remercier l'AS Monaco Cœur parce qu'ils ont invité mes enfants qui sont venus pour la première fois et qui sont allés dans les coulisses et là qui sont encore. C'est pour ça que j'attends.
Et toi, tu vas faire soccer, toi. Tu rentres direct?
Ah non, on rentre demain.
Bon, tu laisses les enfants à une nounou et puis là, tu t'enchaînes, hein, café sas, après tu vas au Twiga, tu fais la fête, hein.
Mais
non, ta soirée, hein.
Il y a ma femme qui est là.
Ah, bah, elle garde les enfants, les gars.
Moi, je suis ni comme Moscato, un vieux facochien, ni comme Dimeco, le vieux beau, hein. Je suis pas du tout comme ça, moi. Je suis fidèle, mais que.
Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Cédric. Excellent soirée.
Merci, messieurs.
En Normandie, tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Maxime, supporter Rémois, est avec nous au 32-16. Salut Maxime, supporter, messieurs, de la meilleure défense de Ligue 1. Oui, c'est jamais l'assurance de voir, quand tu vois Reims à l'extérieur, de voir du spectacle. Mais quand même, Reims est là. T'es maintenu, Maxime, 38 points.
Ah oui. Oui, bonsoir, messieurs.
Salut Maxime.
Oui, on est maintenu, mais bon, on était maintenu depuis, je pense, quelques semaines déjà, quand on voit un petit peu les résultats de tout dernier. Maintenant, oui, effectivement, on est la meilleure défense de Ligue 1, mais bon, On aimerait bien aussi, des fois, prendre un petit peu plus de buts, mais avoir un petit peu plus de spectacles.
Est-ce que tu vibres ou pas? Tu vibres pas du tout cette saison?
Non, faut dire la vérité, on vibre pas. Alors après, c'est toujours pareil, on vibre pas, oui, mais bon, on reste quand même en Ligue 1, et puis surtout cette année, il fallait absolument se maintenir.
Et maintenant, vous faites des bons matchs contre les gros aussi.
Ah oui. Oui, c'est ça, on fait des bons matchs contre les gros parce qu'on n'a pas à faire le jeu. On
Exactement.
Sait que de toute façon, on n'a pas une équipe qui sait faire le jeu. Alors après, on a des bons joueurs, attention, c'est des bons joueurs de Ligue 1, mais on n'a pas de... On manque forcément de créativité dans notre milieu de terrain, je pense. Un mec comme Romao, il est très bon dans la récupération. Un mec comme Chavalerin, il court tout le temps et tout ça, c'est un relayeur. Alors si le petit Kassama, justement, qui ne jouait pas aujourd'hui, mais qui lui voilà une technique un petit peu au-dessus, donc lui c'est intéressant, mais c'est vrai qu'à ce poste-là, je pense qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque du jeu dans les couloirs, même si bon, Camara dans le couloir est très très bon, mais il devrait partir cet été.
Conan revient aussi quand même. Conan revient
à l'équipe. Je trouve qu'autant par rapport au début d'année dernière, je trouve que c'est très compliqué. Il a du mal à revenir de sa blessure et la preuve, il n'était plus vraiment titulaire. Hein, c'est Camara qui joue essentiellement arrière gauche. J'espère qu'il va revenir. Mais je trouve qu'on manque de folie. Alors,
mais justement,
Zenini revient donc.
Oui, c'est ça.
Pour le coup, qui va amener ça
après 9 mois d'absence.
Les blessés. Voilà,
maintenant que t'as tes points du maintien, même si c'était prévu, tu vas pouvoir lâcher les chevaux peut-être un peu, tenter un coup. Voilà les gars, vas-y,
Très rapidement, on sait très bien que l'identité, les points forts de cette équipe, c'est un carré. Une espèce de carré magique, c'est Rajkovic, Dizassi, Abdelhamid et Romao. C'est les quatre qui sont garants de l'identité, de la personnalité de cette équipe, et c'était quatre joueurs défensifs, quoi.
Merci Maxime. Excellente soirée à toi. Messieurs, nous sommes en direct avec un entraîneur heureux, j'imagine, puisqu'il a gagné ce soir. Et avec la manière, avec la forme, 3-0 face à Strasbourg. Michel Azakarian est dans l'after sur RMC. Bonsoir Michel.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir coach.
Bonsoir coach.
Bon ben ça fait du bien. C'est vrai qu'on parlait avant la soirée de Ligue 1 d'un Montpellier en perte de vitesse en 2020. Est-ce que vous avez retrouvé votre équipe 2019 Montpellier ce soir, Michel ce soir?
Bah écoutez, à domicile, on est depuis le début de saison,
Vous êtes bien.
On est très performant, on fait des bons matchs. Voilà, ce soir, notre première mi-temps a été un petit peu poussive, même si on a des occasions aussi. Mais Strasbourg nous a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps, et heureusement qu'on a un bon gardien qui a fait 2-3 arrêts de haut niveau et qui nous a permis de rester dans le match.
Ouais. Kevin Diaz, question à Michel Azakarian.
Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. La semaine dernière, vous aviez changé un peu votre milieu de terrain. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous êtes pourquoi vous êtes revenu à votre entre guillemets formule un peu plus habituelle avec Ferry, Savagnier et Mollet, même si vous avez raison de dire que on va dire la première mi-temps Strasbourg n'a pas démérité. Ensuite, vous avez un peu plus déroulé en seconde mi-temps et vous avez été plus à l'aise au milieu avec un énorme Savagnier.
Ouais, non, mais après, j'ai plusieurs formules. J'ai des joueurs différents. Voilà, ce soir, j'ai décidé de remettre Jordan Thierry avec Savagnier et Flo Mollet. Voilà, ils ont fait dans l'ensemble un bon match, surtout une deuxième mi-temps beaucoup plus conséquente que la première. Mais c'est dû aussi à. C'est tout le collectif qui est important. C'est que tout le monde a son rôle à jouer. Et quand ils sont à ce niveau-là pour bien récupérer le ballon, derrière, je sais qu'on est capable de faire des bonnes choses avec le ballon.
Ouais. Michel, je sais que vous n'êtes pas du genre à vouloir absolument mettre un joueur de l'effectif en avant. C'est plutôt la force du collectif. Mais quand on voit, nous, tous les samedis soirs, ou presque, les matchs de TJ Savagnier, on se dit que là, vous avez un excellent joueur de Ligue 1. Ouais. Qui mériterait mieux et qui est un peu sous-estimé.
Ça fait 3-4 matchs qui retrouve un très bon niveau. Il a retrouvé des jambes. Voilà, il n'avait pas eu au début de saison parce que avec sa blessure au genou, il est resté 3 mois sans jouer. Ouais.
C'est un bonheur.
Aujourd'hui, il a retrouvé un très bon niveau physique et il est capable de.
Bien sûr, ouais.
D'être beaucoup plus tranchant. Il joue. Ça lui permet. Quand t'as un physique, tu réussis des choses plus facilement, parce que tu vois les choses il est plus clair quoi, dans sa vision du jeu et il est capable de réaliser des bonnes choses.
Michel Azécaran est avec nous en direct dans l'After sur RMC. Jonathan.
Oui, bonsoir coach. Écoutez, moi je veux rebondir sur TJ Savagnier. C'est un joueur qu'on adore dans l'émission. Déjà l'année dernière quand on le voyait à Nîmes. Là cette année, il a eu un petit peu de retard à l'allumage avec sa blessure, mais là il revient au niveau qui est le sien. Moi la question, je vous la pose tout simplement. Alors vous n'êtes pas forcément le plus objectif pour nous le dire, mais on est plusieurs à penser qu'il mériterait d'être convoqué par Didier Deschamps en mars.
De tester au moins. Voilà,
au moins pour être testé quand on voit l'état de forme des autres milieux de terrain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que pourquoi pas, je dirais pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a des très bons joueurs aussi en équipe de France. Mais oui, pourquoi pas.
Vous en parlez avec lui?
Non, je parle pas de ça avec lui. Non.
Est-ce que lui,
si ça doit arriver, je serais très heureux. Je serais très heureux pour lui. Mais aujourd'hui, je crois que Didier, il a d'autres joueurs en tête et d'autres joueurs qui ont un très bon niveau aussi. Mais je serais très, 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 très fier. Et très très heureux que TJ soit bien sûr pris en équipe de France.
Michel Azécaran, autre question sur l'ambition. On en parlait avec Jonathan à l'instant. Vous êtes quand même 5e de Ligue 1 ce soir avec 40 points.
Ouais.
Est-ce que vous. Bon, vous avez la question. Désormais, bon, le maintien est assuré, il n'y a pas de suspense. Vous êtes à 7 points de Rennes, à 3 points de Lille qui a un match en moins. Qu'est-ce que vous jouez cette fin de saison? Et surtout pas, Michel, je vous connais bien, de on verra, on va prendre les matchs les uns après les autres.
Non, mais. On s'est jamais caché, on a envie de faire une bonne saison, on a envie d'exister dans ce championnat.
Et donc
voilà, on a essayé d'améliorer l'équipe pour voir plus haut que l'an dernier. L'an dernier, on l'a fait sixième. Voilà, on a envie de rester dans l'eau du classement, mais ça passe par une meilleure gestion de nos matchs à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, on a gagné qu'un match à l'extérieur, c'est trop peu pour penser jouer l'Europe. Il faut qu'on arrive sur les matchs qui nous restent à l'extérieur. Il nous reste 6 matchs à l'extérieur et 5 à la maison. À la maison, on va recevoir tous les concurrents directs et à l'extérieur, faut qu'on arrive à prendre des points. Déjà, le prochain match, c'est à Rennes, c'est un concurrent direct aussi. Il va falloir gagner les matchs à l'extérieur pour pouvoir rester dans le haut du classement.
Dernière question, Jonathan.
C'est pas parce que vous êtes là mais que forcément on a envie de vous cirer les pompes, mais moi, depuis décembre, je pense que le MHSC, avec la qualité de votre effectif, que ce soit en quantité ou en nombre, j'avais dit, pour moi, Montpellier va jouer le podium et la qualification en Ligue des Champions. Vous avez connu un début d'année civile un petit peu plus compliqué, il y a ces résultats à l'extérieur qui ne suivent pas forcément. Est-ce que vous y croyez que le MHSC peut jouer le podium jusqu'au bout? Parce que vous savez, dans cette Ligue 1 qui est un peu folle, vous faites une série de 2-3 bons matchs, ça remonte très vite.
Ouais, mais il faut être capable de faire une série, comme vous le dites. C'est ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent. On n'a fait qu'une fois 3 victoires d'affilée. Et c'est trop peu aujourd'hui pour attraper les équipes qui sont devant nous pour l'instant. Et bien sûr qu'on est capable de faire une série et j'aimerais bien sûr attraper les équipes qui sont devant nous.
Parce que franchement, Michel, quand on regarde votre effectif, très franchement, pour moi, votre effectif n'a rien à envier à celui de Lille et ni à celui de Rennes. Vous avez un effectif qui est fourni en quantité et en qualité. Et je pense que si vous réglez ce problème à l'extérieur, vous pouvez jouer le podium.
Surtout sur le poste d'attaquant où vous êtes clairement l'équipe qui a les deux meilleurs avant-centres derrière le Paris Saint-Germain.
Ouais, après, on n'a que deux, quoi.
Ouais, mais bon, vous en avez deux. Il y en a, ils en ont même pas un.
On a deux bons.
Ouais. Ça, il y en a, ils en ont même pas un, coach.
Michel Azécaran, je vous ai connu à Nantes, notamment pendant quelques saisons. Julien Landry nous envoie un message, s'il vous plaît. Notre correspondant Montpellier nous dit, chambré Michel, sa nouvelle coupe de cheveux, il s'est rasé à blanc, on dirait Zizou depuis la tribune. C'est vrai, en plus.
De toute façon, je perds mes cheveux, alors j'avais coupé court. Après, j'ai pris la décision de les raser cette fois.
Mais vous savez,
ça fait pas trop à ma femme. Alors.
Mais faut aller en Turquie, il faut ça très bien.
Et faut changer de femme.
une greffe, un plan là, ça marche très bien. Mais vous êtes très bien comme ça, Michel.
Michel, juste une dernière toute petite question. On n'a pas le temps. On a l'impression de l'extérieur que vous avez quand même un super groupe et qu'il y a une super bonne ambiance dans ce club-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Par rapport à quoi?
Sur l'ambiance, on a l'impression que c'est vraiment une des meilleures dans le groupe, que c'est vraiment une bande de potes.
Pourtant, il y a des gros caractères.
C'est pas non plus, voilà. Et que si on regarde tous nos groupes de Ligue 1, c'est rare.
Au niveau de l'état d'esprit de l'équipe et du groupe, il n'y a pas de problème. C'est des bons mecs et c'est des bons vivants. Après, le club, moi, c'est ma 21e saison à Montpellier. Après avoir joué ici, en tant que coach. Non, mais c'est un club familial qui a des valeurs et il faut que ça perdure.
Merci beaucoup Michel Zakarian. Excellente soirée à vous. À bientôt sur RMC. Voilà Montpellier qui bat Strasbourg 3-0. On revient dans un instant, bien sûr les gars. On va parler du derby entre Lyon et Saint-Étienne. On va parler de Paris qui a battu Dijon. Quel enseignement à 11 jours de Dortmund, car la nouvelle mission de non, je plaisante.
Ah non, stop, ça.
À tout de suite. On enchaîne jusqu'à minuit. Les drôles dames également arrivent dans l'after.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Bacardi, avec Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, on parle de viande argentine, des pistons du réseau de Jonathan Bacardi.
Il en a du réseau.
C'est le voisinage, c'est pas pareil.
Allez, voilà, on va parler de Paris, bien sûr, dans un instant. Qu'avez-vous pensé de la prestation du PSG? Vainqueur 4-0 de Dijon au Parc des Princes, un bon Mbappé, je trouve. On va parler de Cavani dans son duel avec Icardi. Évidemment, on scrute hein, ouais. La concurrence entre Cavani et Icardi. Incontestablement, Cavani a perdu des points dans son duel à 11 jours de Dortmund.
Nico, on débattra de ton un très bon Kylian Mbappé.
Ouais.
On pourra en débattre.
Ah, ça m'intéresse, votre avis. J'ai trouvé assez bon, moi. Même plutôt.
Bon, il est
plutôt
bon. On va en débattre.
Les drôles de dames également, Fred Hermel, Simone Rovera, Paulo Breitner et Julien Laurence pour évoquer la première défaite de Liverpool après 44 matchs sur deux saisons. Mais d'abord, messieurs, demain soir 21h, il n'y a pas que Real-Barça, il y a aussi Lyon. Saint-Etienne. Ah. Et nous sommes avec Timothée Mémon qu'on a envoyé il y a 3 semaines déjà sur place pour le mission derby. Salut Timothée.
Salut Tim.
Salut à tous. Salut, 3 semaines, j'étais déjà à Dortmund.
Je sais bien pour la mission Dortmund. Tim,
comme si on t'avait envoyé à Saint-Etienne, tu étais de ton plein gré et avec un grand sourire.
Ce qui est bien, c'est quand on voit Timothée dans cette région-là. Mais non, la boîte ne met pas de chambre d'hôtel.
Bah non, il a son appart.
Économie sur le budget hôtel derrière ses sports.
C'est le seul qui veut y aller en plus.
Il a son appart, il se fait à bouffer. Si je suis le sur un simple, tu verras, c'est un chef cuistot le mec.
Je peux dire l'Ibis de Château-Creux.
Ce soir, c'était risotto aux asperges avec un peu de copa.
Allez voir le compte Instagram de Timothée qui poste chaque plat qu'il déguste évidemment.
Il poste chaque plat et sa copine tout le temps.
Timothée, le derby est lancé.
Ouais, le derby est lancé, plus que lancé, il a été lancé ce soir. Les autorités ont mis en place une interdiction de déplacement de toute personne se revendiquant supporter de la Saint-Etienne à partir de 0h tout à l'heure. Résultat, les Magic fans, ou en tout cas une partie d'entre eux, se sont rendus à Lyon à 19h. Aujourd'hui, ils étaient assez nombreux à se rendre dans la cité lyonnaise pour braver cette interdiction. C'était avant tout une décision pour aller à l'encontre de ces décisions qu'ils estiment injustes. Et bah, ce qui devait arriver arriva. Ils ont fini par se retrouver avec certains des bad guns et ça ne s'est pas fini dans un feu de camp confraternel. Bien au contraire, il y a eu une petite rixe. A priori, rien de bien méchant. Quelques interpellations tout de même. Mais voilà, le derby des supporters est bel et bien lancé. Les supporters qui ne seront pas, en tout cas pour les Stéphanois, demain au Parc OL à cause de cette interdiction. Mais voilà, ce sont les premiers éléments de ce début de derby extra sportif, on va dire.
On rappelle que la victoire de Saint-Etienne, 1-0, premier match de Puel quand il prend la Saint-Etienne face à Lyon, c'était il y a 5 mois exactement. Et moi, cette image de Silvigno
en train de tatouper dans les mains des supporters.
Possédé, je pense pas que Garcia va faire la même chose ce soir.
Le fameux pot de départ, ouais.
Non, j'avais
pas pris de substance là.
J'allais dire que, comme tu as dit, que Puel avait. Heureusement qu'ils avaient gagné ce match-là quand même.
Oui, t'as raison. Parce que depuis, c'est quand même très, très compliqué. Je vois là également, messieurs, que Thiago Mendes, une des premières infos compo, on va développer ça avec toi, Timothée, bien sûr, n'est pas dans le groupe. Thiago Mendes glisse doucement. Il était 19e lors du dernier match de Lyon, en tribune, désormais pas dans le groupe. Ce dernier.
Merci à sa copine.
Pourquoi?
Ouais, elle avait fait un petit truc sur les réseaux sociaux là, qui a peut-être pas plu au coach lyonnais.
Victime de l'arrivée de Bruno Guimarães, évidemment.
Ça, je pense. Et c'est surtout que c'est un joueur qui a jamais,
de la comparaison.
C'est un joueur qui a jamais été dans son assiette, je pense. Au début, on mettait ça sur le fait que, je pense que Sylvain l'utilisait très mal. Alors que tout le monde pensait que lorsqu'il arrivait, qu'il allait jouer devant la défense. Que ça serait lui, ça serait la sentinelle. Il a été aligné un peu. Beaucoup de fois très haut sur le terrain. Les peu de fois où il a été aligné en sentinelle, il n'a jamais convaincu. Là, il est victime de l'arrivée de Guimarães. Il y a un milieu de terrain qui tourne. Lucas Touzard s'est refait la cerise. T'as Oussem Aouar qui tourne à plein régime. Bon, ça peut se comprendre. Après, c'est quand même assez grave parce que c'est quand même un joueur qui a coûté quand même beaucoup d'argent.
Oui, qui était un des très bons joueurs de Ligue 1 à Lille la saison dernière.
Les meilleurs milieux de terrain du club.
En 6 mois, comme quoi.
Championnat.
Timothée, les infos AS Saint-Etienne notamment sur le groupe et la compo probable éventuelle.
Effectivement, du côté du groupe de l'AS Saint-Etienne, c'est un groupe élargi qui a été convoqué par Claude Puel, avec notamment le jeune Gourna Douat, 16 ans seulement, issu du centre de formation. Rivera également en fait partie, mais lui, c'est pas la première fois qu'il est dans le groupe. Résultat, la composition pourrait fortement être la suivante, avec Fofana et Saliba, ainsi que Kolo Dzeciak dans cette défense à 3. D'un côté, on va retrouver Debuchy, de l'autre Trauco ou Gabriel Silva. Ce sont deux possibilités pour Claude Puel. Au milieu de terrain, Cabaye forcément, Mvila possiblement, et puis sur le côté gauche, Bouanga, Diony en pointe, Honora sur le côté droit. Voilà pour un peu cette composition probable de l'AS Saint-Etienne. Il y a beaucoup de blessés effectivement du côté de l'AS Saint-Etienne. Il y a également Madi Camara qui est suspendu. Ça ne fait pas les affaires forcément de Claude Puel. Voilà pour cette composition probable, mais encore une fois, c'est très difficile depuis que Claude Puel est à la tête de l'AS Saint-Etienne d'imaginer quelle sera sa compo. On vous rappelle que pour son premier match, le derby du match aller, il avait titularisé contre toute attente Charles Abbie à la pointe de l'attaque, qui avait un petit peu fatigué la défense avant que Robert Berich ne le remplace et marque le but vainqueur.
Timothée, toi qui suis quand même, on va le dire, de près l'AS Saint-Etienne, franchement, qu'est-ce que tu vois demain dans ce derby? Objectivement, est-ce que tu penses que Saint-Etienne peut ne serait-ce qu'arracher un point, ou quand t'as vu les Lyonnais, même si on sait que les Lyonnais, c'est impossible qu'ils nous fassent encore le même match qu'à la Juve.
Je sais pas.
En tout cas,
ça,
je leur souhaite, mais bon, ils ont tellement été inconstants depuis un an et demi que ça paraît compliqué, mais bon, ils ont quand même plus de qualité.
Mais c'est un derby, là, je sais pas, Kevin. C'est différent, c'est un match à part. Puel l'a dit en conférence de presse, Timothée.
Oui, c'est un match à part, forcément. Si les supporters n'en ont pas conscience, ils en auront probablement conscience demain en quittant les trains. Il n'y a pas forcément d'énormes cortèges prévus pour accompagner le départ du bus, mais il devrait probablement y avoir quelques supporters, comme c'est souvent le cas, pour rappeler peut-être aux joueurs l'importance de cette rencontre à leurs yeux, peut-être aux joueurs qui sont arrivés récemment. Et c'est vrai que pour répondre à la question, pour te donner un avis personnel, Kevin, il est évident que si Lyon fait face à Saint-Etienne la première mi-temps qu'ils ont fait face à la Juventus, il y aura peu de chance pour les Verts. La vraie question, c'est de savoir dans quel état sera l'Olympique Lyonnais.
Ouais,
L'Olympique Lyonnais est sur courant alternatif. Édouard Gey le rappelle souvent depuis le début de la saison. Là, ils ont une semaine extrêmement importante. La réception de la Juventus, le derby et la réception de Paris mercredi demi-finale de Coupe de France. C'est trois matchs extrêmement importants. Alors soit ils sont en mode commando sur ces huit jours et ils passeront sur l'AS Saint-Etienne comme ils sont passés sur la Juve, peut-être même pire. Soit, effectivement, il y a une petite baisse de régime entre ces deux matchs, on va dire, niveau européen, celui de Paris et celui de la Juve, et une baisse de régime demain dans le derby. On a du mal à y croire. On sait en tout cas que Jean-Michel Aulas, si Rudy Garcia ne sait pas le faire, je ne dis pas qu'il ne sait pas le faire, mais s'il ne le fait pas correctement, Jean-Michel Aulas saura motiver ses troupes. Voilà, la vraie question, c'est de savoir comment l'OL jouera. Est-ce que c'est cette OL qui parfois est un peu dilettante, qui pense que les matchs se gagnent un peu tout seul? À ce moment-là, Saint-Etienne aura peut-être une chance d'aller chercher quelque chose.
Tim, moi juste une petite observation, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais t'as une équipe qui quand même a beaucoup de mal au milieu de terrain. T'as les blessures de Madi, enfin l'indisponibilité et de Madi Camara et de Zadou Youssouf, qui pour moi sont, je pense, tu seras d'accord avec moi, l'avenir du club. Et t'as quand même Claude Puel qui continue de marquer son territoire en envoyant Jean-Eudes Aoulou avec la réserve.
Oui, effectivement. Après, Jean-Eudes Aoulou, sur le plan sportif, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Je pense que dans l'idée du match de demain, il veut des joueurs concernés. Yann Mvila, on l'a pas vu forcément extrêmement concerné. Est-ce qu'il a réussi à remettre certains joueurs dans le bon mood, dans le bon moule, d'une certaine manière?
Ça a été ton milieu de terrain le plus solide à la récupération, à Aoulou, depuis le début de la saison. Défensivement.
Je te trouve, gentil avec lui. Non, il y a un joueur qui, notamment depuis le début du mois de janvier, monte en puissance, et c'est vrai qu'il était attendu, il a mis le temps. C'est Johan Cabaye, qui fait partie des joueurs les plus réguliers de la Saint-Etienne sur ses derniers matchs et sur des matchs décevants, Encore une fois, il a souvent été celui à sortir. C'était le moins mauvais, bien souvent.
Oui, ça, c'est vrai.
Et c'est vrai que, et voilà, et Madi Camara fournit aussi beaucoup de travail au milieu
de terrain. Qu'est-ce qu'il est fort, lui?
Ouais. Et lui, il va manquer dans un match comme celui de demain, parce qu'il est issu de la formation, parce qu'il a joué des derbies en jeune et parce qu'il sait ce que c'est.
J'adore,
alors, des il y a d'autres joueurs qui ont joué des derbies, hein. Ce sera le cas de William Saliba, de Wesley Fofana, dans la défense. Mais bon, c'est sûr qu'étant donné les dynamiques de l'une et de l'autre des deux équipes, si Lyon est à 100% et que Saint-Etienne est à 100% de la médiocrité qu'ils sont capables de produire ces derniers temps,
il y aura pas match pour les Verts. Voilà. Merci Timothée.
Excellent,
Timothée. À toi avant le derby demain soir à 21h, hein, tu seras bien sûr aux commentaires. Voilà. Voilà pour ce derby. Dans un instant, le PSG débrief de PSG Dijon. Qu'avez-vous pensé, supporters parisiens, de la prestation de Cavani, d'Mbappé? On va sur une évaluation rapide, bien sûr, à 11 jours du match retour face au Borussia. Et les drôles dames sont là pour Liverpool battu, pour le Classico Real Barça Fred Hermel. Simone Rovera pour les 6 matchs reportés en Serie A à cause du coronavirus. Et Paulo Breitner pour le boxon dans le match Hoffenheim-Bayern München. A tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.